Ça fait un cadre, ça fait pas une qualité de vie. La première chose que j'ai fait, très concrètement, c'est que je suis allé vers eux, on est en bourse, on a des objectifs, et je leur ai dit, on oublie tous les objectifs bourse. Dorénavant, la priorité, c'est qu'on se sente bien. Et c'est parce qu'on se sentira bien qu'on satisfera la bourse demain, parce que comme on se sentira bien, on sera bon et on avancera.
Bienvenue sur Génération Management, le podcast dédié au décryptage des pratiques managériales. Je suis Louis Lafon, fondateur de Wanae, une application pour digitaliser les process de management. Je vous propose de rencontrer chaque mois des managers, consultants, coachs pour analyser ensemble les sujets du management à travers leurs expériences. Bonnes pratiques, difficultés, tendances de demain, c'est celles et ceux qui le pratiquent au quotidien qui en parlent le mieux. Alors bienvenue sur Génération Management, le podcast pour développer votre puissance managériale. Bonjour Laurent, je suis ravi de t'accueillir sur Génération Management. C'est un grand plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, Laurent ?
Alors bonjour Louis, merci de m'accueillir. Laurent de la Clergerie, président fondateur du groupe LDLC que j'ai créé il y a maintenant 26 ans. Dans une chambre, dans un coin d'un appartement, l'histoire qu'on lit dans les livres, et même moi quand je les lisais avant j'y croyais pas, donc je l'ai fait, donc maintenant j'y crois. Groupe LDLC qui fait de la vente de matériel informatique sur internet et en boutique maintenant depuis 6 ou 7 ans avec un réseau de 80 boutiques
D'accord.
au global.
Et LDLC c'est aussi pas mal d'autres activités, est-ce que tu peux dire en quelques mots les grandes activités du groupe ?
Alors la principale activité de loin c'est la vente de matériel informatique dans tous les domaines. Après dans l'histoire d'LDLC il y a des filiales autour qui se sont créées, on a l'armoire de bébé qui fait de la puériculture, on a Anicop qui fait de la vente de gestion logicielle ticket restaurant, on a DLP Connect qui est un électricien. Là pour l'anecdote c'était juste qu'à un moment on s'est développé tellement vite qu'à un moment on a dit on va faire l'électricien chez nous, ça nous coûtera moins cher. Il y a LDLC VR Studio qui fait du développement de jeux VR et de programmes VR pour entreprises. Il y a l'école LDLC où on forme en 3 ans des étudiants pour être soit monter leur propre entreprise, soit être de super chefs de projet. Et l'idée de cette école, c'était de faire une école qui soit l'école que j'aurais aimé faire, parce que je n'étais pas fan de l'école, je n'étais pas fan des devoirs, des notes, de tout ça, et là, c'est l'école qui répond à tout ça. Et je suis sûr que j'en oublie. Et puis, il y a des concurrents qu'on a rachetés, Matériel.net, Topacha, qui font aussi partie de l'ensemble.
Ok, donc une activité qui s'est diversifiée.
Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est 1000 collaborateurs et 700 millions de chiffre d'affaires.
D'accord. Donc aujourd'hui, le groupe LDLC, c'est une entreprise qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail. Pour poser un peu le cadre, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est pour toi la qualité de vie au travail ? Comment tu vois cet aspect-là ?
Alors ça fait 4 ans que je me suis mis en tête de faire le maximum pour que la qualité de vie au travail soit la meilleure. Partant de l'historique de LDLC, où au départ quand on était en quelque part en mode start-up, c'était naturel. On s'est jamais dit il y aura de la qualité de vie au travail, mais en fait c'était spontané et naturel, et puis on s'est structuré dans le temps, et je voulais revenir dans un univers où c'était devenu une priorité. Priorité même sur le chiffre d'affaires. Pour moi la qualité de vie au travail, l'idéal... Si je viens au travail comme je viens dans un club de foot parce que j'adore jouer au foot, et en fait j'ai du plaisir dans mon travail, et globalement je travaille pas. Si tout le monde pouvait être comme moi, c'est-à-dire que quand on crée sa boîte en général, on est juste passionné, on travaille jamais, il n'y a pas un jour de travail, même si en réalité on travaille un petit peu plus que les autres, mais on ne se ressent pas comme ça, je dirais c'est un peu, je compare des fois le job... Quand il nous plaît comme ça, c'est comme si on jouait une partie de WoW ou de n'importe quoi. Et en fait, on est juste dans un truc qui nous plaît tous les jours et on compte pas les heures. Bah, si on pouvait arriver, sans ces notions d'heures ou autres, à avoir tout le monde dans ce cadre-là qui vient parce que c'est bien, parce que socialement on s'entend bien avec tout le monde, parce que le boulot nous plaît, etc. Ça, c'est la qualité de vie au travail telle que ce serait le top. Bon, ça n'arrivera pas sur 1000 personnes. Mais en tout cas, l'idée pour moi, c'est d'essayer de réunir toutes les conditions pour qu'en tout cas, on s'en rapproche le plus possible.
D'accord. Donc, ta mission au quotidien, c'est que les gens viennent chez LDLC avec un grand sourire.
C'est exactement ça. Qu'ils viennent avec un grand sourire et qu'ils aient toujours le sourire le soir quand ils rentrent
chez eux. Avec le sourire. Ok. Et du coup, donc pour mettre en place cette ambiance de bien-être, quelles sont les principales mesures que tu as prises au sein du groupe Et à partir de quand tu as commencé à... Donc, c'était commencé à peu près il y a 4 ans. Et quelles sont les premières actions? Et comment tu as cheminé voilà, pour mettre en place cette, ces mesures de bien-être au travail?
Alors, en fait, déjà, il y a 5 ans, on est arrivé dans le campus là, que tu as vu aujourd'hui, qui est déjà très sympa.
Ouais.
On pourrait être chez Google, ça ferait la même chose.
Je me demandais si les gens ne se baladaient pas en vélo.
c'est pas encore assez grand, mais on pourrait. On a 2 pistes de bowling qu'ils ne doivent pas avoir.
Oui, c'est ce que j'ai entendu.
Donc ça, bon, mais ça fait un cadre, ça fait pas une qualité de vie. Ouais. Après, en fait, l'idée, ça a été, la première chose que j'ai fait, très concrètement, c'est que je suis allé vers eux, on est en bourse, on a des objectifs, et je leur ai dit, on oublie tous les objectifs en bourse. Dorénavant, la priorité, c'est qu'on se sente bien, et c'est parce qu'on se sentira bien qu'on se satisfera à la bourse demain, parce que comme on se sentira bien, on sera bon et on avancera. Après, d'autres choses que j'ai fait, j'ai viré toutes les primes dans la boîte. Ça s'est fait en 2 ans. Une première année où on a viré les primes qui existaient, qui ne concernaient pas des commerciaux. Et une deuxième année où on a viré les primes des commerciaux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils gagnent moins. C'est juste que leur salaire est devenu fixe, le même qu'avant, mais en fixe. Et ça, c'était pour déstresser, pour que les gens avancent tous dans le même sens, mais sans être incentivés par ça. On a changé le positionnement du management, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un management accompagnant et pas contrôlant strict qui décide. On est passé en position de se dire clairement c'est celui qui fait qui sait. Quand je parle à la personne qui fait les colis, il n'y a pas mieux que lui pour savoir la façon dont il doit les faire. Moi je peux avoir la stratégie globale de l'entreprise, mais inversement sur chaque métier indépendant, chacun est meilleur que moi en vrai. Donc on a installé tout ça. Et pour que ça se fasse bien, je suis allé moi vers les équipes aussi, et ça je le fais tous les ans, en disant c'est comme ça qu'on va évoluer, donc un manager qui est contrôlant, j'en veux plus dans la boîte. Ce qui était très compliqué pour les managers qu'il était, puisqu'en fait, une fois que je suis allé voir les équipes en leur disant je n'en veux plus, forcément ils vont voir le manager en question en lui disant Laurent a dit qu'il ne veut pas de ça, donc tu ne peux plus faire ça.
Ouais.
Donc on a eu quelques départs à l'époque de quelques managers et la plupart ont cherché plutôt à s'adapter. Donc pour qu'ils arrivent à s'adapter, on a aussi des coachs internes aujourd'hui.
D'accord.
On a 3 coachs internes qui sont là pour les aider, alors les accompagner eux, accompagner des équipes, voire accompagner des gens qui ne sont ni managers ou autres et qui ont besoin d'un accompagnement d'un coach pour progresser sur le point de vue boulot, ils ne les accompagnent pas sur la vie perso. On a des facilitateurs dans les réunions pour que ce soit plus simple. Ça aussi, je me suis battu contre les trop de réunions, etc. Avec la notion de un jour, en fait, pour être très transparent, un jour j'ai annoncé dans la boîte que je fermais l'intégralité des salles de réunion pendant 3 mois. Parce que j'estimais qu'il y en avait trop, qu'il y ait trop de monde dans les réunions. Ça a été un peu un traumatisme le jour où j'ai fait ça dans la boîte. Et puis au bout d'un mois, ils ont pris leur habitude. Alors, je n'avais pas interdit aux gens de se voir. Ils pouvaient se voir à la cafette, ils pouvaient se voir dans leur réfectoire, ils pouvaient s'organiser une petite réunion à 3 ou 4. Mais ça évitait toutes les grosses réunions qui n'étaient plus possibles.
Okay.
Et quand 3 mois plus tard, on a rouvert les salles de réunion, elles ne servent plus à rien aujourd'hui. parce que les gens ont pris les bonnes habitudes quelque part. Et il y a beaucoup moins de réunions aujourd'hui dans la boîte. Donc ça a été des mesures qu'il y a eu au fur et à mesure. Et puis la toute dernière, qui a mis un cran au-dessus, ça a été d'annoncer aux gens qu'on allait travailler 4 jours par semaine, payé comme avant, c'est-à-dire sans baisse de salaire et en passant aux 32 heures. Le passage aux 32 heures, ce n'était pas ma priorité au départ, mais c'est qu'en fait, quand j'ai calculé que sur 4 jours, ça faisait 9 heures par jour, je me suis dit ça fait trop.
Ouais.
Et donc, on est passé à 8 heures par jour. Au-delà de tout le reste, ça a changé la vie dans la boîte. C'est sans doute la mesure, alors je ne sais pas si j'aurais pu la prendre en premier, mais en tout cas, c'est celle dont aujourd'hui je regrette de ne pas l'avoir pris avant.
D'accord. Et en fait, donc, de ce que je comprends, c'est qu'au fur et à mesure, tu as mis en place plusieurs actions de bien-être au travail. Et donc, quand tu parlais de management, c'est entre guillemets laisser plus de place à la prise d'initiative des collaborateurs en essayant d'avoir un management plus participatif que directif.
C'est exactement ça. En fait, j'ai beaucoup travaillé à installer la confiance, parce que ce que je me suis rendu compte, alors dans un premier temps, j'ai cherché à installer la confiance entre les équipes et leurs managers dans ce sens-là. Et puis, quand ça a commencé à être installé, ça, je me suis rendu compte, finalement, il fallait aussi installer la confiance entre les collaborateurs et entre les équipes. Parce que souvent, c'était après, c'est pas nous, c'est l'équipe d'à côté. Et puis, si on allait voir l'équipe d'à côté, forcément, c'était les autres. Et à un moment, ça a été de dire, mais arrêtez de vous renvoyer la balle, il n'y a ni fautif ni autre, le tout c'est d'avancer. Et j'ai beaucoup aussi travaillé là-dessus en leur disant, maintenant que la confiance en notion verticale, elle est installée, il faut aussi l'installer en horizontale. Et une fois qu'on a ça, installer les deux autres paramètres sur lesquels j'ai travaillé, qui sont autonomie et responsabilité des équipes, c'est beaucoup plus facile, puisqu'une fois que la confiance est là, finalement, tout le reste, ça s'enchaîne.
Et, donc, et ensuite, j'ai tiqué sur une phrase que tu as dit, c'est la suppression des primes.
Tout à fait.
Ça a été perçu comment? Parce que quelle est la motivation derrière pour supprimer les primes et de dire, on t'enlève ton variable? Est-ce qu'en contrepartie, on augmente le fixe? Comment ces collaborateurs sont...
Alors, soyons clairs, hein, les commerciaux n'ont pas vu leur salaire baisser sous prétexte qu'il y avait plus de variables. La masse salariale des commerciaux n'a pas changé, elle a même légèrement augmenté pour les recalages qu'on a fait. C'est-à-dire que moi, ça m'a coûté exactement la même chose d'avoir ou pas avoir de prime. La seule chose, c'est qu'il n'y avait plus le commercial qui fait une super prime si jamais il a une super affaire.
D'accord.
Mais son salaire, globalement, d'une année sur l'autre, n'a pas changé. Par contre, oui, ça les a un peu traumatisés quand on a fait ça, parce que dans l'ADN d'un commercial, ce qui le fait avancer, c'est la carotte. Et je leur ai expliqué que justement, ça ne serait plus le cas, parce qu'en fait, et je leur ai vendu en leur expliquant que moi, je voulais qu'ils soient honnêtes avec les clients. Et que si je mettais une carotte, pour avoir la carotte, ils allaient mentir aux clients. Donc ça a été des critères. Et puis en fait, il y avait plein d'autres choses. Il y a tout ce qui est une fois qu'il y a un calcul pour calculer une prime, les gens vont essayer de trouver le calcul pour gagner le maximum de la prime. Donc, quitte à planter un mois, parce que ce mois-là, j'aurai pas la prime, donc je vais pousser mon chiffre sur le mois d'après. Et en fait, d'enlever les primes, ça supprimait tout ça. Alors, sur le coup, il y a des gens qui ont voulu partir à cause de ça, mais une fois installés dans le confort de la prime, et quand ils allaient chercher un job ailleurs en se disant, ça repart avec la notion de prime, mais en face, j'ai un salaire fixe qui est garanti. Est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement de tout mettre en péril alors que maintenant j'ai une situation qui est beaucoup plus confortable? Trois ans plus tard, maintenant ça s'est étalé à trois ans, personne n'est parti.
D'accord.
Et je ne dis pas qu'ils sont tous contents parce que quand ils font une super grosse affaire, ils disent tiens là j'aurais pu avoir une prime, mais en tout cas ils n'ont plus du tout en fait d'appréhension et globalement ça se passe super bien.
D'accord. Donc tu as créé, cette fameuse semaine de 4 jours, déjà un cadre de bien-être et de qualité de vie au travail. Et donc, tu es arrivé avec cette nouvelle mesure de semaine de 4 jours. Comment ça a été accueilli et d'où est venue l'idée?
Alors, l'idée, elle m'est venue d'un article que j'ai lu. C'était Microsoft qui testait la semaine de 4 jours au Japon pendant au mois d'août, avec ses équipes et qui avait eu 40% d'efficacité en plus. En fait, dans les faits, c'est pas le fait qu'ils aient testé, qu'il y ait eu l'efficacité. C'est juste que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, on pourrait pas travailler 4 jours. Et je me suis projeté là-dedans. Et en me projetant là-dedans, déjà, je me suis dit c'est 8 heures par jour parce que sinon ça fait des journées trop longues et je pense que je perdrais la qualité du travail. Je suis pas sûr qu'en fait, en les faisant travailler 9 heures, j'aurais plus de travail à la fin de la journée. Ça, c'était la première chose. Et puis après, j'ai calculé. Alors, côté salarié, je m'attendais pas à ce qu'on me dise non, Laurent, on n'en veut pas. Donc, j'ai réfléchi aux avantages qu'ils auraient, mais j'étais sûr que ce serait accepté.
Je vais bien le croire.
Donc j'ai plus calculé de mon côté en me disant, vu que tu enlèves 3 heures, c'est 9% de travail au moins, ce ne sera pas 9% parce qu'il y aura une certaine efficacité en plus, et je m'étais dit, ça va me coûter 4 ou 5% de masse salariale en plus.
Ouais, parce que pour qu'on comprenne bien, en fait, du coup, les collaborateurs travaillent 8 heures par jour au lieu de 7, et du coup, ça fait 32 heures, donc il y a 35 heures.
Donc il manque 3 heures de
voilà, tu payes 35 heures,
et moi je paye 35.
32 travaillés, d'accord. Okay.
J'ai pas changé les salaires, j'ai pas gelé les salaires, j'ai rien fait.
Donc il y a entre guillemets 3 heures par collaborateur par semaine de perdu.
Et donc voilà, et je suis parti en mode annonce aux négociations annuelles obligatoires, aux NAO, où on a fait des NAO normales d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a fait les augmentations de l'année, on a tout fait normalement, et je l'ai fait en mode Steve Jobs, c'est-à-dire qu'une fois que la réunion était finie et qu'on s'est tous dit, on est tous d'accord, la réunion est terminée, j'ai fait one more thing.
Au fait,
moi j'ai quelque chose de plus, j'aimerais signer un accord 4 jours 32 heures. Et dans la salle, à part mon frère qui est directeur général, personne n'était au courant de cette annonce.
D'accord.
Donc ni les RH, ni personne.
Ah oui.
Donc c'était une grosse surprise pour tout le monde. Ils m'ont regardé un peu en genre, oui, Laurent, t'es sûr de toi là? D'ailleurs, la première question, c'était, mais c'est pour faire un test? Et je leur ai répondu, non, c'est pas un test. On ne reviendra en arrière que si vous me suppliez de revenir en arrière. Donc on ne reviendra pas en arrière.
Ouais. Parce que c'est compliqué de revenir en arrière, j'imagine.
C'est compliqué, il aurait fallu vraiment que ce soit un échec et que les salariés se sentent mal dans ce cadre pour que ce soit le cas.
Ouais,
et j'imaginais pas
que ça vienne des salariés. Voilà. Quoi. Ouais.
À moins qu'on dise que c'est un test au départ sur 3 mois et qu'on se focalise là-dessus et puis on fait un bilan, mais je suis convaincu qu'on y resterait. Mais en tout cas qu'on cadre le truc en disant aux gens il y a un risque qu'on revienne en arrière. Mais là, j'avais pas envie de rentrer dans ce jeu-là. J'étais vraiment en mode on le met et on avance. Alors, sur le coup, j'ai sans doute 10% de la boîte, essentiellement dans les managers, les gens qui travaillent beaucoup, qui se sont dit ça va pas marcher. Il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant Laurent, j'en veux pas.
D'accord, plutôt des managers.
Plutôt des managers ou des gens qui sont impliqués dans leur boulot et qui n'avaient pas forcément le sentiment d'avoir besoin d'un jour qui se plaise, en fait, comme ouais. Je te disais un petit peu au départ.
Ouais,
des fois, on se sent bien et j'en ai pas besoin. Et en fait, moi, je voulais l'imposer quelque part à tout le monde. Et là, pour le coup, j'étais un peu en mode directif pour que tout le monde teste. Et en me disant, on fera un point. Et puis, si effectivement, il y a une frange des gens qui veut revenir en arrière, on trouvera un cadre pour qu'ils puissent revenir en arrière. Et donc, on y est tous allés. Et puis, ben là, aujourd'hui, on est un an plus tard.
Ouais.
Et un an plus tard, ben, y a personne qui veut revenir en arrière. Alors, quand je dis personne, j'ai fait un sondage, il y a 1% qui veut revenir en arrière. Et le cas qui revient le plus souvent, c'est que pour tous ceux qui sont au forfait jour, on a supprimé les RTT. En fait, on les a figés, ils sont obligés de les prendre le jour off, le fameux cinquième jour qu'ils ont. Et certains, même si ça représente moins de jours, préféraient la souplesse de ces quelques jours qu'ils pouvaient poser quand ils veulent dans l'année, plutôt que les 30 jours qu'ils ont en plus.
D'accord, je comprends, ouais.
Parce qu'ils ont, du coup, ils n'ont plus que 5 semaines qu'ils peuvent vraiment, avec lesquelles ils peuvent jouer, alors qu'avant, ils arrivaient à 7-8 semaines avec l'ancienneté. Et là, ça a figé les choses.
D'accord.
Donc, à quelques-uns près qui préféraient ça, globalement, tous les autres sont tombés dedans et ne reviendraient pas en arrière.
Et du coup, donc, tu parlais d'une perte des 3 heures par semaine par collaborateur. Là-dessus, quel est le retour d'expérience un an plus tard sur le coût
financier ?
Alors
ça, c'est une super bonne question. Un truc qui m'a complètement surpris, c'est que ouais. À la fin, j'ai pas recruté. D'accord, j'ai pas eu besoin, donc j'ai pas eu de coût. Moi, je suis passé... Il y a une expérience en Nouvelle-Zélande où le gars a fait la même chose, sauf qu'il avait dit aux équipes, je vous préviens, si vous ne faites pas le travail en 4 jours, vous viendrez bosser le cinquième jour.
Ah oui.
C'est la condition. Donc, vous devrez faire le même travail. Moi, j'étais parti en mode, je ne force personne à travailler, donc si jamais on n'y arrive pas, on recrutera. Et c'est pour ça que j'avais un coût au départ. Et la surprise que j'ai eue au final, c'est que non, j'ai pas eu besoin de recruter parce que font en 4 jours le travail qu'ils faisaient en 5, même dans des postes logistiques, en fait, là où je ne m'y attendais pas du tout, mais en réalité, c'est qu'ils ne se fatiguent pas sur 4 jours, ils se fatiguent moins. Donc, ce n'est pas qu'ils ont augmenté la cadence, c'est qu'ils ne la baissent pas au fur et à mesure de la semaine et qu'ils gardent cette énergie qui leur permet finalement d'avoir une cadence constante qui est meilleure que quand ils étaient en 5 jours. Et donc, au final, on n'a pas recruté du tout. Donc, la mesure, globalement, elle était super économique pour la boîte. Et ouais. Super bonne pour les équipes parce qu'aujourd'hui, bon, t'as pas eu l'occasion de croiser beaucoup de monde, mais ils ont tous la banane.
Ouais.
Ils entament tous des semaines de 4 jours. Une semaine de 4 jours, on l'a tous vécu, hein, même ceux qui ne sont pas concernés, lundi de Pentecôte, lundi de Pâques ou autre, ça fait une semaine de 4 jours. C'est très court, ça va très vite. Ici, on le vit toutes les semaines, voire des semaines de 3 jours quand ça tombe pas.
Ouais.
À ces moments-là. Et le truc que ça a le plus changé, que j'ai pu constater dans les équipes, c'est que aujourd'hui, dans une boîte standard qui travaille 5 jours, le moment où on se dit qu'on va se reposer, c'est les vacances. Chez nous, c'est le week-end.
Ouais.
Il n'y a pas besoin d'attendre les vacances. Et ça, ça se voit vraiment.
Ça se ressent, ouais.
Les vacances, c'est un bonus. On sera content de partir en vacances, mais on ne se dit pas vivement les vacances que je prenne une pause et que je me repose. Non.
D'accord.
On sait qu'on revient chaque semaine reposer.
Donc ça a vraiment été un contrat gagnant-gagnant en termes de pour LDLC en termes de productivité et pour les collaborateurs en termes de bien-être quoi.
Ça a été un contrat gagnant-gagnant et ça a été du jour où je l'ai pensé en me disant ce sera génial, en fait j'imaginais pas à quel point ce serait super génial.
Ouais, d'accord.
Pour tout le monde.
D'accord. Et en termes d'organisation et de culture du changement, qu'est-ce que ça a impliqué ? Est-ce que ça a été difficile ? Parce qu'il y a quand même, j'imagine, une qualité de service à maintenir pour les clients.
Alors,
peut-être une rotation ?
Entre le moment où j'ai annoncé qu'on allait le faire et le moment où on l'a mis en place, c'est passé 6 mois sur lesquels on a réfléchi à comment on pourrait le mettre en place. Et ça, c'est les équipes qui l'ont fait. Et où il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque équipe, en fait, on a dit à chaque équipe de s'organiser pour que ça fonctionne, mais deux équipes l'une à côté de l'autre n'ont pas forcément le même mode de fonctionnement. Ouais. Je vais prendre par exemple l'équipe achat. Chez nous, ils ont décidé de tous prendre le vendredi parce qu'ils estimaient que s'ils n'étaient pas là le vendredi, c'est pas grave. C'est le seul service où ils ont pu faire ça. Mais globalement, chaque équipe a organisé. Et le mode, c'est juste effectivement, on a des clients en face. Sur le web, on a 5 jours, enfin dans les bureaux, on a 5 jours d'ouverture. En boutique, on a 6 jours d'ouverture. Les gens travaillent 4 jours, donc il y a des plannings pour que ça fonctionne. Et pour qu'un maximum de gens aient au moins le vendredi qu'ils voulaient pour la plupart d'entre eux, ou le mercredi. Alors, ceux qui voulaient le mercredi pour garde-enfants, ils ont le mercredi qui était fixé pour eux, il n'y avait pas d'alternance avec autre. Et pour le vendredi, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a beaucoup de binômes, c'est-à-dire des gens qui sont sur le même métier, le même plateau, et qui vont prendre le vendredi une semaine sur deux à intervalle, puis un autre jour dans la semaine, l'autre semaine. Comme ça, ils ont au moins la moitié des vendredis de l'année. D'accord. Et en organisant tout ça, en demandant aux équipes de s'organiser comme ça, bah en fait, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que c'est même pas les managers qui ont nécessairement mis ça en place, ils ont surveillé que ça fonctionne. Mais en fait, dans les équipes, ils se sont organisés pour que l'équipe fonctionne et que même sur un pôle commercial, l'équipe soit toujours capable de répondre aux clients, qu'en boutique, les 6 jours, on soit toujours ouvert et que les services soient là, qu'à la relation client, on réponde tous les jours aux clients, et ainsi de suite. Tout se passe comme si de rien n'était. Et ce qui est très amusant, c'est que le jour où on l'a mis en place, le 25 janvier 2021, en fait, il n'y avait pas de différence. À un petit détail près, on recevait des mails quand on les envoyait, je suis off aujourd'hui. Ouais. Et il a fallu, ça c'était le truc où il a fallu se caler, parce qu'on ne s'était pas forcément dit, tiens, un tel c'est tel jour, et il a fallu apprendre pendant un mois quels étaient les jours off des gens qui étaient autour de nous.
Ouais, donc ça reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'autonomie des collaborateurs, chacun s'est un peu organisé, enfin chaque équipe s'est un peu organisée pour que ça fonctionne au mieux. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou c'était quand même finalement assez fluide? Parce que j'imagine que sur une taille de 1000 collaborateurs, c'est quand même
Justement, quand on a mis le projet en place, on s'est dit, dans 3 mois, on fera un point et on corrigera les défauts. Et ça a marché du premier coup. Et c'est assez impressionnant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais sûr qu'on recalerait des trucs. Ouais. Et en fait, on n'a jamais rien recalé du premier plan qu'il y a eu de mise en place et ça a tout de suite marché. D'accord. Après, des gens qui ont changé leur jour parce que finalement, ils avaient choisi tel jour et puis ils se rendent compte que ça ne marchait pas et puis dans l'équipe, ils pouvaient le changer. Oui, il y a des gens qui ont changé le jour qu'ils avaient choisi au départ. Mais hormis ça, non, il n'y a pas eu de...
D'accord. Et du coup, est-ce que ce type de fonctionnement, pour toi, il est adapté à tout type d'entreprise? Est-ce qu'il y a des limites ou est-ce que tout le monde devrait passer à la semaine de 4 jours?
Alors, je ne sais pas si ça peut marcher partout, je ne peux pas l'affirmer. Ouais. Je vais prendre un exemple concret. Un jour, j'ai vu le patron d'une boîte de Carrébus qui m'a dit, Laurent, je comprends bien que toi, en logistique, tes gars, ils ont réussi à faire les colis parce que la cadence n'a pas descendu. Mmh. Moi, mon chauffeur de bus, il ne va pas se mettre à rouler à 100 au lieu de 90. Pour compenser les 3 heures qui manquent.
C'est sûr.
Il y a des cas dans lesquels je ne sais pas si effectivement ça serait aussi efficace. Après, je sais que des choses que ça améliorait, c'est l'absentéisme par exemple. J'en ai beaucoup moins. Donc, est-ce que l'absentéisme en moins de ces chauffeurs compenserait pas les 3 heures en question? Peut-être. Donc, peut-être que ça s'appliquerait. Mais je n'ai pas la réponse pour tout le monde. Après, nous, on a des métiers de bureau. Là, ça s'applique. On a des métiers de logistique, ça s'est appliqué très bien. On a des métiers de relations clients, on a réussi à l'appliquer. Des boutiques, on a réussi à l'appliquer. Et on a des boutiques 3 personnes. Alors, les boutiques 3 personnes, on a dû recruter, mais comme on est un gros groupe, ça a perdu. Dans l'ensemble, entre les endroits où on a besoin de moins de monde, les endroits et autres, ça n'a pas changé le nombre d'embauches. Donc j'ai plein de métiers où ça s'applique, donc il y a un certain volume de personnes. Donc je ne sais pas si ça s'applique strictement à tout le monde, mais en tout cas, ça s'applique à. Ouais. Beaucoup de monde.
Après, il y a peut-être cette barrière un peu mentale du « je travaille que 4 jours, je vais perdre en efficacité » qui peut refroidir certains chefs d'entreprise.
Ouais, le calcul que font les chefs d'entreprise, c'est se dire il va manquer du travail, il va manquer des heures. Ce qu'ils oublient, je pense, c'est on est humain, on n'est pas des machines. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je mets on-off que je vais produire pendant le temps de production. Je pense qu'on marche plus comme on marche en mode sportif. C'est-à-dire que si je fais un sport constamment sans m'arrêter, je muse. Ouais. Si je prends les bonnes pauses au bon moment, je serai meilleur sur les heures où je suis efficace. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on fait. En fait, ce jour en plus dans la semaine, il change complètement la vie. Ouais. L'analyse que j'ai pu en faire a posteriori, c'est que globalement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, une journée de travail... C'est pas 7 heures, c'est pas 8 heures, c'est pas 9 heures. C'est du moment où je me lève au moment où j'ai fini de manger. Pourquoi je vais de là à là, et ça fait très long dans la journée, je parle du dîner, hein. Parce qu'en fait, dans tout ce temps-là, c'est du trajet, de l'organisation, et c'est pas un moment à soi. Et donc, c'est très large. Et que je rajoute une heure dans la journée, finalement, j'ai même pas changé ce tempo de la journée pour les gens. Donc, en gros, j'ai rien le temps de faire la semaine, sauf à partir de 20h, 21h. Et là, j'essaie de vivre sur les 2-3 heures qui me restent. Et puis, je recommence 5 jours de suite. Et le samedi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine, les courses, le ménage, le jardin si j'ai un jardin, enfin, tous les trucs que je dois faire mais que j'ai pas le choix. Et le dimanche, à la limite, je vais trouver le temps de me reposer. Si j'ai fini le reste. Là, quand je mets un jour dans la semaine en plus, bah ce jour de la semaine, il va permettre de faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Et je vais prendre, et ça change beaucoup plus que simplement ça, c'est que le rendez-vous chez le médecin que je sais jamais caser, quand j'ai un jour dans la semaine d'après, qui est dans la semaine, j'aurai aucun problème à le caser. Donc ça me libère l'esprit. Quand je vais faire des courses au supermarché un mardi, un jeudi, il n'y a personne. Ce n'est pas le week-end où je vais faire une heure à la caisse, une heure sur les routes parce que c'est blindé de partout. Non, ce n'est pas les mêmes journées, même dans les contraintes. Et quand j'arrive le week-end, j'ai vraiment 2 jours de repos. Et quand finit le week-end, j'ai une semaine de 4 jours.
Donc le week-end reprend sa vraie fonction de week-end.
Voilà. Et c'est pour ça, comme je te disais, on se repose vraiment en semaine, on n'a plus besoin d'attendre les vacances.
Ouais. Et en tant que chef d'entreprise, et surtout dans une entreprise où la qualité de vie au travail est très importante, comment tu restes au courant de l'humeur de tes collaborateurs? Est-ce que tu arrives à identifier des baisses de régime? Comment tu fais? Alors, ça au quotidien?
Hormis le fait que mon bureau, c'est le plus souvent la machine à café, parce que c'est là que je vois les gens et que je passe beaucoup, beaucoup de temps. Il faut savoir que j'ai un planning qui est toujours vide, mais qui se remplit très vite dans les journées, parce qu'en fait, on peut venir me voir quand on veut. Mais globalement, mon planning est très, très vide. Après, il y a une chose que je fais qui est pour moi capitale et que je fais tous les ans, c'est que je vois l'intégralité des collaborateurs par groupe de 20 à 30 tous les ans. Une semaine que je bloque entièrement, ça me fait 50 réunions, 5 jours.
Une semaine.
Mais je vois tout le monde en mode question-réponse, c'est-à-dire que je commence toujours la réunion avec strictement la même phrase, c'est « je n'ai strictement rien à vous dire, par contre je répondrai à toutes les questions que vous avez sur tous les sujets que vous voulez, du moment que c'est ni trop secret, ni trop perso ». Et à partir de ce moment-là, ils vont me poser toutes les questions qu'ils veulent. Et ça, c'est génial parce que pour eux, ça apporte toutes les réponses à toutes les questions qu'ils ont, parce que je vais répondre en toute franchise, sans aucun... vraiment sans aucun secret, et d'année en année, en plus, ils savent qu'en plus, il n'y a même pas de mensonge ou autre, puisqu'ils le voient. Si je ne sais pas, je préfère dire « j'ai pas la réponse » ou « je ne peux pas vous garantir que ce sera comme ça », plutôt que de partir dans un truc et puis de me rendre compte 6 mois plus tard que ça n'était pas comme ça. Donc c'est très franc comme dialogue. Et moi, en fait, ce qui est génial pour moi, c'est qu'une question, c'est un problème. Enfin, pas forcément un problème, mais en tout cas, c'est... Même s'ils ne me parlent pas, à chaque fois qu'il y a une question, ça m'apporte des éléments sur la boîte et sur ce qu'il y a. Je vais prendre une question un jour qui n'avait rien à voir. Mais un gars un jour qui m'a demandé, Laurent, pourquoi on ne m'achète pas du Vigor, mais un produit bas de gamme pour faire mon ménage alors que ça ne lave rien? Et en fait, la question, pour moi, la réponse était tout con. Oui, effectivement, les services généraux, ils ont l'impression d'économiser 1 € sur la bouteille de Vigor, mais ils rendent ce mec malheureux. C'est con pour 1 €.
C'est sûr. Ça vaut pas le coup.
Et c'est à travers la question qu'on voit ce genre de problème. Donc voilà, des fois, il y a des trucs qui se révèlent dans les questions qui me seraient jamais remontés, et dont on voit en plus plus loin que la question qui serait posée sur un truc CE. On voit vraiment le gars qui est malheureux parce qu'il a le sentiment de mal faire son travail, parce que d'un autre côté, un gars a dit « je vais économiser 1 € sur le produit de ménage ».
Ouais, c'est important. Ouais. Donc, tu arrives à rester proche des collaborateurs.
Et on arrive, et grâce à ces réunions-là, tous les ans, j'arrive à rester proche. Et c'est aussi ces réunions-là qui m'ont vraiment permis de ressentir l'effet 4 jours, parce que quand j'y suis allé cette année, alors que ça faisait 1 an qu'on était aux 4 jours, là, j'ai vu une énergie, une joie de vivre, un truc incroyable de la part des gens. C'était « ok, j'ai fait un truc bien parce qu'ils sont tous, tous contents ».
D'accord. Et du coup, les prochaines étapes en termes de bien-être au travail pour LDLC, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a d'autres projets?
Typiquement, dans les questions que j'ai eues lors de mes dernières réunions, c'était « Laurent, c'est quoi ta prochaine idée ?»
La semaine de 3 jours.
Et j'ai des idées dans ma tête. Mais en fait, ce que je leur ai répondu, c'est « je ne vais rien faire tout de suite, même si je pense qu'on pourrait faire d'autres choses ». Tout simplement parce qu'on a un cadre de travail qui est génial et qu'on pourrait nous envier partout. Et en fait, je leur ai dit, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est convaincre les autres d'appliquer ce cadre de travail. Et si je vais plus loin, on va juste être un ovni. Déjà, on est un ovni.
C'est peut-être un peu tôt.
On est déjà bien distant de la majorité des boîtes dans la façon dont on travaille. Mais je leur ai dit, si je franchis d'autres étapes, là, on va complètement être un ovni. On va tellement les décrocher que je n'arriverai plus à vendre le fait qu'on peut faire mieux que ce qui existe aujourd'hui. Donc, on doit rester proche des autres. Donc, même si on pourrait faire encore mieux, on n'ira pas plus loin. Donc, c'était un petit peu déçu sur le côté, merde, il pouvait faire mieux, il ne va pas le faire. mais en tout cas, je suis convaincu qu'on peut, une fois qu'on a installé toutes ces confiances, autonomie, que les gens travaillent pour une boîte dans laquelle ils se sentent bien, on peut aller très loin en réalité dans la libéralisation des règles, parce que finalement, on va revenir à mon histoire du club de foot de départ. Quand on est investi bénévole dans un club de foot, c'est pas le salaire, c'est pas le truc, c'est simplement qu'on se sent bien et on donne tout ce qu'on a à donner et on se pose pas de questions.
Ouais, c'est clair. Ok, super. Et du coup, pour finir le podcast, j'aime bien demander une petite recommandation de livre ou de contenu pour les auditeurs. Toi, ce qui t'inspire ou ce que tu... Voilà,
J'ai plein de titres qui me passent dans la tête au fur et à mesure, mais en fait, je vais en garder un. C'est Revolutioning Organization de Lalou, je crois.
Ok.
Qui parle un petit peu entreprise, alors ça parle entreprise libérée, mais sans parler d'entreprise libérée, ça parle d'entreprise, il y a des couleurs et autres, mais de tout ce, un petit peu tout ce qu'on a mis en place, et où on voit ces fonctionnements, où on se fait confiance les uns les autres. Dedans, il y a un très très beau schéma que j'aime, c'est un organigramme d'une entreprise un peu comme ça, qui ressemble à un cerveau plein de neurones, avec des points plus ou moins concentrés, autres, mais où on voit que les gens n'ont pas besoin de passer, enfin, ça passe dans tous les sens, on peut contourner le chemin dans tous les sens, on n'est pas obligé de passer par un tel ou un tel pour que l'information circule. Et ça, pour moi, c'est l'entreprise de demain aussi, qui permet tout ça derrière.
Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Laurent, pour cet échange. J'ai passé un super moment.
Merci pour l'échange aussi.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Management, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à suivre le podcast Génération Management et le noter. À très vite pour de nouveaux épisodes.